voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, édition du 13 novembre 2014, en direct de Washington, chez Robin Dorsil et Morgane Guériac.
Les grands points de l'actualité, ce soir au Burkina Faso, l'armée accepte les propositions des civils. Va-t-on vers l'adoption finale d'une charte de la transition ?
Les négociations entre les civils et les militaires ont démarré officiellement hier. Les travaux se sont poursuivis ce matin. Les points d'achoppement ne sont pas insurmontables.
On écoutera le constitutionnaliste Augustin Loada.
Échauffouré à Libreville, en plein cœur d'une polémique sur la nationalité du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba.
C'est là-dessus que l'opposition veut bâtir un combat qui peut être terrible pendant 2 ans.
Dieudonné Minlama de l'Observatoire national de la démocratie.
En République centrafricaine, Bangui paralysé aujourd'hui par la grogne des ex-combattants Séléka.
Le Libéria lève l'état d'urgence instauré il y a 3 mois à cause de l'épidémie d'Ebola.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord le journal. Peut-être une charte de la transition dès ce soir au Burkina Faso. Les acteurs de la crise se réunissent ce soir à Ouagadougou autour de la question. Les derniers blocages semblent levés, car aux dernières nouvelles, l'armée a accepté les propositions des civils. On fait le point avec Bagassi Koura.
L'armée est d'accord avec la charte de la transition, a affirmé le lieutenant-colonel Zida, qui tient les rênes du pays depuis la chute du président Blaise Compaoré le 31 octobre. Les discussions entre l'armée d'un côté et les civils, à savoir les membres de la société civile, de l'ex-opposition et les autorités coutumières et religieuses, ont débuté hier autour de la charte de la transition. Les deux parties avaient trouvé hier un accord minima qui devait être validé par la hiérarchie militaire. C'est désormais chose faite. L'armée accepte finalement que le président de l'Assemblée intérimaire, le Conseil national de transition, soit une personnalité civile élue par ses pairs et non un soldat. Le préaccord indique aussi que le CNT, le Conseil national de transition composé de 75 membres, soit un organe législatif. L'armée souhaitait qu'il soit simplement consultatif. Le texte confirme aussi que le président de la transition sera un civil.
Des manifestations ont eu lieu à Libreville, au Gabon. Des affrontements ont éclaté entre la police et les protestataires qui tentaient de se rendre au palais de justice pour déposer une plainte sur l'acte de naissance du président Ali Bongo, accusé d'être nigérian adopté pendant la guerre du Biafra.
Au niveau du front de l'opposition, il était prévu aujourd'hui à 14h le dépôt d'une plainte contre le président Ali, que l'opposition qualifie d'usurpateur, au niveau du tribunal de Libreville. Donc dans la matinée, il y a des jeunes qui soutiennent le président Ali qui s'étaient amassés vers le tribunal, dans la route qui va au tribunal, alors que les autres n'étaient pas très loin de là. Il y a des policiers qui sont postés partout, parce que dans la nuit, le ministère de l'Intérieur a fait un communiqué pour empêcher la marche de l'opposition, mais l'opposition a réagi en disant que nous marcherons.
C'était Dieudonné Minlama de l'Observatoire national de la démocratie au Gabon. Nous reviendrons avec lui sur la situation à Libreville un peu plus tard.
Fin des plaidoiries à la Cour pénale internationale où se déroule le procès de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. La défense a demandé son acquittement pur et simple, estimant qu'il n'avait aucun contrôle sur les milices accusées de viol, meurtre et pillage en RCA entre 2002 et 2003. Les précisions de Timothée Donongmaï.
Dans son plaidoyer aujourd'hui, maître Peter Haynes, l'un des avocats de la défense, a dit que le verdict correct, basé sur les preuves présentées par l'accusation, doit être l'acquittement. Ces preuves n'étaient pas suffisantes et l'accusation n'a pas pu étayer les chefs d'accusation retenus contre Jean-Pierre Bemba, a-t-il déclaré. Hier, l'accusation a exhorté les 3 juges de la CPI à trouver Bemba coupable, affirmant qu'il contrôlait ses miliciens et pouvait empêcher les atrocités commises en RCA. « Nous essaierons de rendre un verdict dans une période de temps raisonnable », a déclaré de son côté la juge-présidente Sylvia Steiner, citée par l'AFP. Ouvert en novembre 2010, le procès de Jean-Pierre Bemba portait sur les exactions commises par quelques 1500 de ses miliciens déployés en République centrafricaine en appui au président Ange Patassé, qui faisait alors face à une tentative de coup d'État menée par le général François Bozizé.
En République centrafricaine, Bangui, paralysé aujourd'hui par la grogne des ex-combattants Séléka. Ces derniers ont barricadé deux principales avenues de la capitale pour revendiquer les autorités de la transition une meilleure prise en charge. Le point avec Eddy Issango.
À l'expiration de leur ultimatum de trois jours lancé mardi au gouvernement, les ex-combattants rebelles sont passés ce jeudi à la vitesse supérieure. Ils ont érigé des barricades dans les périphéries des camps Béal, au bataillon des soutiens et des services et RDOT, entravant ainsi la circulation sur les avenues de l'indépendance et des martyrs. Une manifestation faite sans tir d'armes à feu, les colonels Bamara, un des chefs Séléka du camp RDOT, précise leurs revendications.
Nous avons seulement trois objectifs. Les enfants qu'on a formés devraient être incorporés dans l'armée. Deuxième chose, le droit de notre cantonnement, ça devrait être payé. Ça, c'est obligatoire. Le troisième, les anciens qui sont là parmi nous, là, leurs galons. Et il y a des gens qui devraient intégrer l'armée, comme d'habitude, tout ce qu'on demande. On n'a pas de quoi dire. Là, on revendique notre droit. C'est fini. Les gens peuvent passer comme ils veulent, tranquillement. Mais à pied, les gens passent avec tous leurs biens. On n'est pas là pour faire du mal.
Notons que jusqu'en début de soirée, et malgré la présence des forces de la MINUSCA, les révoltés campaient toujours sur leur position. Pas de circulation de véhicules et de motos. Une partie des habitants du nord de la capitale est contrainte de rester à la maison. Par ailleurs, aucune réaction officielle des autorités de la transition n'a été enregistrée. Des discrétions font état d'ouverture des pourparlers entre les leaders de ces hommes et le gouvernement à Bangui.
L'Égypte est toujours sans nouvelles de 8 militaires portés disparus après une attaque hier contre un de ses navires en Méditerranée. Il y a aussi de nouveaux attentats aujourd'hui au Caire et dans le Sinaï. Idriss Fall.
Plus de 24 heures après, c'est toujours le mystère sur l'attaque qualifiée de terroriste par les autorités contre une vedette de la marine égyptienne en Méditerranée. Un porte-parole de l'armée a simplement indiqué que 8 militaires sont portés disparus et les recherches continuent pour les retrouver. Il a ajouté que les 4 bateaux utilisés pour l'assaut par des groupes armés comprenant des terroristes ont été détruits. Par contre, le quotidien gouvernemental Al-Ahram indique que la vedette a essuyé des tirs après s'être approchée de 3 bateaux suspects et a estimé qu'il s'agissait probablement de trafiquants. Au Caire, l'explosion d'une bombe assourdissante a semé la panique ce matin dans un wagon de métro, entraînant une bousculade qui a fait 16 blessés. Par ailleurs, 2 policiers et 3 soldats ont été abattus par des hommes armés dans 2 attaques séparées dans le Sinaï, où l'armée lutte depuis plusieurs mois contre une insurrection djihadiste.
Et sachez aussi que l'ambassade d'Égypte en Libye a été attaquée à Tripoli. D'après l'agence officielle libyenne, une voiture piégée a explosé près de la chancellerie. 2 gardes de sécurité ont été légèrement blessés, indique un média d'État. Quelques minutes après, une autre voiture piégée a explosé devant l'ambassade des Émirats arabes unis. Au moins 2 gardes de sécurité auraient été blessés. Abu Dhabi accuse les groupes islamistes Ansar al-Sharia et Fajr Libya.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, a annoncé ce jeudi la levée de l'état d'urgence instauré en août pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Elle a toutefois prévenu que le combat n'était pas terminé, Jean-Roger Bion.
Dans une adresse à la nation, la présidente libérienne a déclaré que les marchés peuvent rouvrir et le couvre-feu a été repoussé à minuit dans les zones non touchées par l'épidémie. Madame Sirleaf a fait savoir que le pire est passé, mais que quelques foyers du virus continuent de voir le jour dans les zones rurales. Certaines restrictions resteront donc en place.
Jusqu'à ce que l'objectif national de 0 nouveaux cas d'ici la fête de Noël soit atteint dans tout le pays, nous allons garder un certain nombre de précautions avec des ajustements appropriés en harmonie avec les progrès dans nos efforts.
10 des 15 comtés du Libéria n'ont signalé aucun nouveau cas depuis dimanche. Pendant ce temps, Médecins sans frontières va lancer des essais cliniques en Afrique de l'Ouest de 3 traitements de la fièvre à Ebola. L'ONG espère commencer les essais le mois prochain et les premiers résultats devraient être disponibles dès le mois de février.
À noter aussi que l'Organisation mondiale de la santé confirme que l'Ouganda est débarrassé du virus de Marburg, fièvre hémorragique voisine de celle à virus Ebola.
Dans le reste du monde, la Russie continue de masser des troupes et des équipements dans l'est de l'Ukraine, a déclaré aujourd'hui un porte-parole de l'armée ukrainienne. Kiev n'entend pas abandonner le cessez-le-feu conclu en septembre avec les séparatistes, a-t-il ajouté. Moscou assure toutefois qu'il fera tout pour empêcher une reprise des hostilités à grande échelle.
Les frappes aériennes contre le groupe État islamique vont s'intensifier à l'avenir, tandis que les forces irakiennes au sol cherchent à devenir plus efficaces. Déclaration du secrétaire américain à la défense Chuck Hagel aujourd'hui devant une commission du Congrès. Hagel, qui est déposé en compagnie du chef d'état-major interarme Martin Dempsey, a fait état de progrès face aux djihadistes, mais il prévient que les Américains devraient se préparer pour une lutte longue et difficile.
Après les récents affrontements en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, les efforts diplomatiques se multiplient en vue de calmer la tension entre Israéliens et Palestiniens. Et c'est dans ce contexte que se situent les discussions du secrétaire d'État John Kerry ce jeudi avec les dirigeants israéliens et jordaniens. Il s'est entretenu auparavant avec le président palestinien Mahmoud Abbas.
Le président Barack Obama poursuit sa visite à Myanmar, donc Birmanie, où il a évoqué la perspective d'un jour nouveau pour le pays. Mais il faut faire davantage dans le cadre de la transition démocratique, a rappelé M. Obama. Il a rencontré les législateurs birmans aujourd'hui en présence du leader de l'opposition Aung San Suu Kyi, qui aura un tête-à-tête demain avec le chef de l'exécutif américain.
Les deux chambres du Congrès américain ont annoncé un vote sur un projet très controversé, la construction du Keystone Pipeline, un gazoduc reliant le Canada aux États-Unis. Un vote tout à fait politisé puisqu'il a été proposé à la chambre basse par Bill Cassidy et au Sénat par Mary Landrieu, les deux adversaires au second tour des sénatoriales en Louisiane. Les députés votent aujourd'hui tandis que le vote du Sénat est prévu pour mardi.
Voilà pour le journal. Chérubin Dorsil et Morgane Guériac en votre compagnie ici à Washington. Restez branchés pour nos dossiers du jour. On le disait dans le journal, les acteurs de la crise au Burkina Faso se réunissent ce soir à Ouagadougou pour finalement adopter une charte de la transition. Le constitutionnaliste Augustin Louada a activement participé à la rédaction de la dite charte. Ce soir, il revient sur les tractations menées depuis hier entre l'armée et les acteurs civils.
Les négociations entre les civils et les militaires ont démarré officiellement hier. Les travaux se sont poursuivis ce matin. Les points d'achoppement ne sont pas insurmontables. Il s'agit de savoir quelle sera la nature de cet organe de transition. Plus particulièrement du Conseil national de transition, quelle sera la nature des pouvoirs qui seront conférés à cet organe, quelle sera la composition, plus particulièrement le niveau de représentation de l'armée et de l'ancienne majorité, et qui va présider cet organe de transition et comment le président sera choisi. Je pense que ce sont des points sur lesquels il est possible d'arriver à un consensus assez rapide.
Est-ce que vous n'avez pas perdu un peu trop de temps à rédiger cette charte?
On a perdu beaucoup de temps parce que la méthode qui a été choisie par les autorités militaires n'a pas véritablement permis de gagner du temps parce que les civils ont échangé entre eux, ils sont parvenus à un consensus, partis politiques, sociétés civiles, autorités religieuses et coutumières, mais le contact avec les civils officiellement n'a démarré que hier. Donc on aurait pu s'asseoir ensemble, militaires et civils, pour échanger depuis la semaine passée. Je pense que si on avait choisi cette méthode, on aurait eu un consensus assez rapidement.
Si aujourd'hui vous arrivez à accorder vos violons, quelle sera la prochaine étape?
La prochaine étape sera de réunir un collège électoral ou du moins un collège de désignation afin de choisir qui va présider la transition au Burkina Faso, qui va assumer les fonctions de chef de l'État durant cette période de transition en attendant l'élection présidentielle de 2015.
Et est-ce qu'on connaît la composition de ce collège?
Il y aura des représentants en principe de la société civile, des partis politiques et des militaires, peut-être aussi des religieux. Je pense que c'est un des points sur lesquels nos délégués vont nous informer, en tout cas cet après-midi. On saura exactement quel sera le mécanisme qui sera mis en place pour désigner le président de transition, parce qu'il y a des propositions alternatives tendant à simplifier le mécanisme.
Le constitutionnaliste Augustin Louada, joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Au Gabon, une polémique a été lancée par le journaliste français Pierre Péan, qui affirme dans son livre « Nouvelles affaires africaines » qu'Ali Bongo Ondimba a falsifié de nombreux documents, dont son acte de naissance et ses diplômes. Le pouvoir a réagi non seulement par un démenti, mais en intentant une action en justice contre l'auteur. Dans le camp de l'opposition, cette affaire donne lieu à une nouvelle mobilisation contre le président.
Aujourd'hui, l'opposition devait déposer une plainte au tribunal accusant M. Bongo d'être un usurpateur. Les partisans du gouvernement sont également sortis à Libreville. Le point de la situation avec le président de l'Observatoire national de la démocratie au Gabon, Dieudonné Minlama.
Cette situation crée un peu de grabuge à Libreville. Il y a les policiers qui sont postés partout parce que dans la nuit, le ministère de l'Intérieur a fait un communiqué pour empêcher la marche de l'opposition. Mais l'opposition a réagi en disant que nous marcherons.
Revenons sur ce livre de Pierre Péan. Et nous savons que ça a provoqué pas mal de remous. Comment peut-on comprendre la réaction du pouvoir jusqu'à présent ?
Il y a eu des réactions de condamnation de la part du gouvernement. Il y a même la famille du président Bongo qui, par sa grande sœur Pascaline Ferry, qui a fait une déclaration aussi de soutien, de démenti. L'oncle du président est sorti aussi de sa réserve, c'est-à-dire la famille de sa maman par l'entremise de M. Jean Boniface Asselé, maire adjoint de Libreville. Donc il y a une action judiciaire et une action politique de mobilisation des populations contre ce livre.
Bon, les rumeurs circulaient sur cette affaire de naissance. Ce n'est pas 100% nouveau, non?
Oui, déjà après les élections de 2009, il y a un leader de l'opposition, M. Luc Bongo-Nelsi, qui avait déposé plainte dans ce sens, disant que le président Ali ne serait pas gabonais, qu'il aurait été adopté par le président Bongo. Mais la Cour constitutionnelle avait tranché en disant que ce genre de protestation, de réclamation, on les fait avant les élections. Ce qui fait qu'on n'a pas étudié le cas dans le fond. Maintenant, l'opposition vient de rebondir parce que Pierre Péan a écrit et puis voilà, l'opposition a rebondi là-dessus.
Quel sera l'impact de cette situation sur la vie politique au Gabon qui, il faut le dire, est déjà tendue?
Je crois que l'impact est suffisamment grave. Parce que dans la démarche de l'opposition aujourd'hui d'un certain nombre de citoyens gabonais, s'il est avéré que le président Ali Bongo ne puisse pas démontrer, entre guillemets, sa gabonité de naissance et non d'adoption, je crois que toute l'opposition va se battre dans le sens de lui demander de démissionner, ce qui va rendre la situation suffisamment difficile et tendue. Et la deuxième chose, c'est que l'opposition va sûrement refuser qu'il se représente, parce que la Constitution, dans son article 10, interdit aux personnes ayant acquis la nationalité de se présenter aux élections au-delà de la troisième génération. Donc c'est là-dessus que l'opposition veut bâtir un combat qui peut être terrible pendant 2 ans.
Et comme vous l'avez dit, nous assistons déjà à des mouvements de rue à Libreville.
C'est pour cette raison qu'au niveau de la société civile, nous pensons que l'heure de discussion est arrivée.
Discussion en vue de quoi ?
Pour remettre à plat notre constitution, notre système électoral. Mais à côté de cela, il y a aussi, au niveau social, à partir de lundi, on peut arriver à une grève générale au Gabon. Donc nous avons une situation politique suffisamment tendue.
Le président de l'Observatoire national de la démocratie au Gabon, Dieudonné Minlama.
Cette semaine, dans Washington Forum, les 3 leaders religieux centrafricains sont à l'honneur. L'archevêque Nzapalainga, le révérend Bangou et l'imam Layama sont nos invités exceptionnels cette semaine à Washington dans nos studios pour parler de la crise centrafricaine. Retrouvez-nous à 19h temps universel ce jeudi sur La Voix de l'Amérique.
Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Mali a dénoncé ce qu'il appelle la légèreté des services sanitaires du pays, car c'est de la Guinée que le second cas d'Ebola est arrivé au Mali. Le gouvernement pense avoir fait de son mieux, alors que les responsables et actionnaires de la polyclinique Pasteur se défendent. Ils disent avoir avisé les autorités sanitaires du pays à temps, mais la réaction a été lente. On fait le point avec Kassim Traoré.
Le représentant de l'OMS au Mali a reconnu la rapidité et l'efficacité de la cellule anti-Ebola du Mali. Ibrahima Sossefal, représentant de l'OMS au Mali.
J'en profite pour lancer un appel à tous les médecins, que ce soit dans le public ou dans le privé. Aujourd'hui, on ne peut pas recevoir un malade qui vient d'une zone donc endémique, une zone où l'épidémie sévit, qui présente une déférence viscérale aiguë, comme une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique sans évoquer l'hypothèse diagnostique du malaria virus Ebola. Ça ne doit plus se passer ici.
Il ajoutera que les responsables de la clinique n'ont pas eu de bons réflexes pour aviser les autorités sanitaires du pays.
La clinique n'a pas fait le diagnostic, ni l'hypothèse diagnostique. Il a fallu que l'OMS en Guinée nous appelle pour nous informer que probablement une personne est décédée de la maladie à virus d'Ebola dans une clinique au Mali, suite à leurs investigations du côté guinéen à Kouléma. Et c'est comme ça que nous avons immédiatement informé les autorités sanitaires. Et au moment où ils allaient même investiguer la clinique, c'est en ce moment que l'information a été donnée pour cet infirmier qui a été en contact avec ce patient qui est probablement décédé de la maladie à virus d'Ebola.
Professeur Ousmane Sow, chef de la cellule nationale de lutte contre la fièvre à virus Ebola au Mali.
Depuis même, ils ont pris la décision d'envoyer leur ambulance chercher un malade en Guinée. Nos équipes devraient être informées. Et parce qu'à l'entrée, qu'est-ce qui se passe? On prend la température. S'il se trouve déjà que ce malade-là est sous antipyrétique, ou ce malade, pour une raison donnée, toutes les maladies ne donnent pas la fièvre tout de suite. Et si ces jours-là, ou au moment juste où il passe la frontière, il n'y a pas de fièvre, ben les normes disent aujourd'hui, on recherche les signes et on mesure la température. Si à l'interrogatoire, on ne trouve pas les signes, il n'y a pas de signes visibles, et que la température soit normale, la personne peut passer le cordon sanitaire.
Selon les responsables de la polyclinique Pasteur, l'infirmier décédé a été mis en isolement. Mais c'est la réaction des autorités sanitaires qui a été lente. Ben Baba, premier actionnaire de la polyclinique Pasteur.
Les services compétents Ebola ont été alertés. Il y a un service, le professeur Sow a été alerté et le professeur Sow a pris en charge ce patient en interne chez nous avec questionnement, avec tout le processus qu'ils ont mis, les protocoles du ministère de la Santé. Donc ça, c'était le samedi. Dimanche, il a été prélevé. Nous n'avons pas eu les résultats dimanche. Le malade n'allait pas bien. On joue la transparence totale. Je vous dis exactement comment les choses sont passées.
Face à ce deuxième cas de fièvre à virus Ebola, 91 personnes ont été mises en quarantaine, y compris une vingtaine du personnel de la MINUSMA. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui sur la Voie de l'Amérique. La police mauritanienne a fermé le siège de l'ONG anti-esclavagiste Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Cette fermeture survient alors que plusieurs dirigeants de l'IRA, dont son président Biram Oulda Oulda Beïd, sont arrêtés à Rosso, dans le sud du pays.
Le mouvement avait organisé une caravane pour dénoncer les expropriations de terres des négro-mauritaniens de la vallée du fleuve. En exclusivité pour la Voix de l'Amérique, Idriss Fall a pu joindre Biram Oulda Ould Abeid dans son lieu de détention à Rosso.
Nous sommes dans un état d'arrestation ici depuis 3 jours à la compagnie de gendarmerie de Rosso. Ils ont dit qu'ils nous ont arrêtés. Au début, ils ont dit que nous avons participé à la caravane contre l'esclavage foncier autorisé par le ministre de l'Intérieur et qui a démarré depuis le vendredi passé. Elle a fait plusieurs arrêts entre Bogué et Rosso. Il y a beaucoup de paysans de la vallée qui sont rassemblés pour se plaindre de l'oppression féodale dans le domaine agricole et des expropriations foncières à caractère esclavagiste et raciste. La caravane était venue à sa dernière étape qui était de remettre le papier de doléance au gouverneur du Trarza, qui est à Rosso, pour qu'il transmette le document au chef de l'État. Moi, j'étais de passage le mardi 11. J'étais en partance pour Dakar à travers le bac de Rosso et la police m'a arrêté et a dit que je suis derrière la caravane, que la caravane est une caravane raciste et que IRA est un mouvement raciste. Ils ont prétendu qu'ils veulent nous appliquer le code du terrorisme, l'incitation à la haine, l'incitation au discours raciste, qui est passible de peine de 15 ans jusqu'à 30 ans de prison.
Est-ce qu'ils vous ont notifié officiellement une sorte d'inculpation après 3 jours de détention?
Les officiers de gendarmerie qui s'occupaient de l'enquête ou du procès-verbal m'ont bien notifié ça. Mais le parquet ne m'a pas encore notifié ça officiellement, ni le juge d'instruction.
Et si vous êtes en détention, pourquoi il vous autorise d'utiliser votre téléphone?
C'est très curieux. Je suis très étonné que hier tard dans la nuit, le capitaine de la gendarmerie m'a réveillé pour me dire maintenant, moi personnellement, je te donne ton téléphone pour t'aider un peu à communiquer avec tes gens et les gens qui veulent t'amener la nourriture. parce que de mémoire de personnes récurrentes dans les prisons comme moi et dans les détentions, je n'ai jamais eu ce genre de privilège. Je me pose encore la question, pourquoi ils m'ont donné le téléphone alors que je suis toujours en détention? Et le quartier où se trouve la compagnie de gendarmerie où je suis détenu avec mes amis est cerné par plusieurs dizaines de pelotons de militaires armés jusqu'aux dents. Rosso est presque maintenant une ville en état de siège. Ici, à la compagnie de gendarmerie, nous sommes 5 ou plus et bien d'autres détenus.
Voilà, c'était Biram Oulda Ould Abeid, président de l'ONG anti-esclavagiste IRA en Mauritanie.
On passe tout de suite au sport avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors, je persiste et signe, Bagassi, où aura lieu la CAN 2015?
Mais c'est toujours le flou, hein, mais ce qu'on sait ce soir, c'est que le président de la CAF, Issa Hayatou, est attendu ce vendredi à Malabo pour s'entretenir avec le chef de l'État équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema, au sujet donc de cette CAN 2015. Et le ministère des Sports n'a toutefois fait aucun commentaire sur une possible organisation de cette CAN par la Guinée équatoriale, déjà co-organisatrice, je vous le rappelle, de la compétition avec le Gabon en 2012.
Et si la CAN 2015 avait lieu, disons, en Asie?
Ben, c'est une hypothèse hein, qui est évoquée depuis ce matin, depuis que le Qatar s'est posé en recours pour aider à organiser cette compétition. Le Qatar s'est dit prêt à aider donc par tous ses moyens à l'organisation de la CAN, mais il n'est pas sûr que ce soit une proposition d'organisation du tournoi dans l'Émirat. Donc, du coup, la volte-face serait spectaculaire puisque hier déjà, le vice-président de la Fédération Qatari avait jugé qu'une candidature de son pays pour organiser la CAN n'aurait pas de sens.
Et il ne reste qu'à penser à Haïti.
Ben, si
aucun pays ne veut de la CAN.
Ouais, mais Issa Hayatou cherche des solutions. Et si vous pouvez vous déposer votre candidature très très vite là.
L'auteur d'un rapport Bagassi sur des soupçons de corruption accuse la FIFA d'avoir déformé le dit rapport.
Oui, Michael Garcia, l'Américain, l'auteur du rapport sur les soupçons de corruption autour de l'attribution des Mondiaux 2022 et 2018 au Qatar et en Russie, a dénoncé une présentation erronée et incomplète de son enquête par la FIFA. Il faisait allusion à la présentation du président de la Chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA, Hans-Joachim Eckert, qui avait conclu de sa lecture du rapport que l'attribution des Mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar n'avait pas lieu d'être remise en cause malgré des éléments douteux de portée très limitée.
Et pour finir, quelques résultats des matchs disputés mercredi soir en Ligue professionnelle de basket ici aux États-Unis, la NBA.
Il faut noter cette victoire de Washington sur Détroit, 107-103. Utah a été battu par Atlanta, 100-97. Indiana a dominé les Heat de Miami, 81-75. Peut-être que LeBron James n'est plus là hein, pour défendre les Heat qui perdent devant Indiana.
Alors, les Lakers, comment vont-ils?
Les Lakers continuent hein, leur série, mais ils sont tombés donc face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans, 109-102. Mais Portland a dominé Denver, 130-113. Défaite de Brooklyn Nets, 104 contre Phoenix, qui l'a emporté donc avec 112. Et enfin, cette victoire hein, Chérubin de Houston contre Minnesota, 113-101.
Merci, Bagassi Koura. Alors, Morgane, c'est presque la fin.
Oui, donc on va écouter un peu de musique. Hein. Willow Smith, Whip My Hair, c'est un remix featuring Laurel. Boy, be out, I'll be with that. Them haters over there. Go solo, whipping my hair, hot shoe, rare pair. Said go Cinderella, go, they be busy talking. I'm in the studio, in all the videos. Number unavailable, worth it, I work it. Wasn't really feeling you, my bag is aching, my bra too tight. My booty shaking from left to right. She mad cause she can't do it right. I'm whipping my hair like.
Ainsi prend fin Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagnot, accompagné de Santos à la console technique.
Merci à toute la rédaction. Au micro, c'était Morgane Guiriec
et Chérubin Orsi.